Bonjour à tous et à toutes. Nous voulons saluer aussi tous ceux qui nous visitent. Que Dieu vous bénisse parmi nous. Marchez avec Dieu. Nous marchons tous avec Dieu, n'est-ce pas? Demeurez en Christ. Marchez comme lui, il a marché. Voilà le titre de notre temps de méditation. Ensemble. Dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, il y a plusieurs hommes qui ont marché avec Dieu. Donc nous allons voir qu'est-ce que c'est que marcher avec Dieu, demeurer aussi en Christ. Enoch, connaissons Enoch, même si nous ne le connaissons pas, mais nous savons que Dieu parle de lui dans la Bible. Genèse 5, verset 24 dit que Enoch a marché avec Dieu. C'est-à-dire, ici, marcher avec Dieu, c'est se conduire selon Dieu. Ça veut dire qu'il s'est conduit selon Dieu. Ah, il faut que je fasse attention. Il s'est conduit selon Dieu. Pour Noé, que nous connaissons, Genèse 6, verset 9 dit que Noé marchait avec Dieu. Ici, marcher avec Dieu parce que c'est un être, il était un homme juste, un homme intègre. Abraham, nous le connaissons aussi. Genèse 17, verset 2 dit que Abraham marcha devant ma face. Voilà ce que Dieu dit d'Abraham. Il marcha devant sa face. Et c'est Dieu qui lui a dit, marche devant ma face. Vous voyez, c'est Dieu qui lui demande, sois intègre. Et puis Dieu lui dit que je suis le Dieu tout-puissant. Abraham non plus n'a pas refusé son fils à Dieu. Nous savons que Dieu lui a demandé son fils en sacrifice. Non, Abraham n'a pas refusé son fils à Dieu. Son unique fils, même dérouté dans cette situation, Abraham marcha dans l'obéissance à Dieu. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans l'obéissance. Bien-aimés, vous qui êtes là, vous qui nous visitez, marchez selon la voie de Dieu. Ce sont les plans de Dieu qui doivent se réaliser, pas les nôtres, pas les nôtres, et ainsi nous épargner toute mauvaise surprise. Dans ma marche avec Dieu, je dois m'écarter de tout ce que Dieu me dit de ne pas faire. Je dois m'écarter de tous les dieux étrangers, tout ce qui prendra la place de Dieu dans ma vie, toute idole devant moi. Soyons déterminés à respecter les limites de Dieu et à ne pas pécher contre lui. Que Dieu nous aide à persévérer dans notre marche avec lui, et cela avec détermination. Nous allons poursuivre en lisant dans 1 Jean, chapitre 2, versets 24 et 25, qui sera affiché. Il est dit, c'est pourquoi tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi unis au Fils et au Père. Et voici la promesse qu'il vous a faite. La vie éternelle. Ici, dans ce passage, l'apôtre Jean adresse des paroles particulièrement pour les chrétiens, aux chrétiens. Il dit trois choses. Ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Ce n'est pas prendre et à laisser. Ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Ensuite, il leur dit, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez, vous aussi, dans le Fils et dans le Père. Il termine en disant, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, si vous aussi vous demeurez dans le Fils et dans le Père, vous devez être rassurés de la promesse de Dieu. Ce que nous avons lu, qui consiste à donner la vie éternelle. Ici, je vous dirai une petite chose. Dieu donne, prenez. Souvent, Dieu nous donne, mais nous ne prenons pas. Dieu donne la vie éternelle, prenez. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez entendu dès le commencement. On peut penser à la prédication de l'Évangile, n'est-ce pas? Qui conduit au salut. Puisqu'il est parlé d'entendre ce que vous avez entendu. S'il fallait résumer ce message, nous pourrions dire que Dieu s'est révélé comme le Dieu bon, le Créateur. Ensuite, les hommes qu'il a créés se sont révélés comme mauvais dans la désobéissance. Et enfin, Dieu, à cause de son grand amour, est revenu en son Fils, Jésus-Christ, pour sauver les hommes. Voilà un peu le résumé de l'Évangile. Dieu nous a créés bien, même très bien, dit la parole de Dieu. Dieu a créé les hommes très bien. Mais les hommes, nous savons, ont péché contre Dieu, dans la désobéissance à la parole de Dieu. Mais Dieu, sans tenir compte de ses péchés, de ses révoltes, est venu en Jésus-Christ faire des hommes encore une nouvelle création. Car celui qui est en Christ devient une nouvelle création. C'est là que nous voyons la grâce et l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ça, c'est le message que les gens ont entendu dès le commencement. C'est le message aussi qu'ils ont accepté pour devenir enfants de Dieu. Nous aussi, si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, c'est ce message que nous avons entendu. Ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Dans la même épître, il est dit en 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 3, nous trouvons ici d'autres éléments différents. Jean écrit, « Ce qui était dès le commencement, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu de vos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie, car la vie a été manifestée, est apparue, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée, visible à nos yeux. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alors que l'apôtre Jean parle de ce qu'on a entendu, de ce que nous avons entendu, l'apôtre ne désigne pas quelqu'un. Il ne désigne pas quelqu'un. Il dit ce qu'on a entendu. Ce que vous avez entendu. On peut se limiter à croire qu'il parle tout simplement du message. Il ne s'agit pas seulement de message, simplement. Il s'agit de Jésus. Nous avons entendu, ils ont entendu quelqu'un parler. Nous avons vu la vie, dit le texte. Nous l'avons entendu, nous l'avons touché. Nous l'avons contemplé. Nos yeux l'ont vu. Il ne s'agit pas tout simplement d'entendre seulement, ni simplement. Il s'agit de cette vie qui était auprès du Père et qui a été manifesté en Jésus-Christ. Je vous ai écrit parce que vous croyez que vous avez la vie éternelle. Oui, il faut que nous croyions que nous ayons la vie. Je vous écris pour que vous croyiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez en Christ, parce que la vie, elle se trouve en Christ Jésus, qui elle-même, la vie pour l'éternité. Christ est donc en résumé ce dont on a entendu parler. Quand nous entendons l'Évangile, quand nous lisons la parole de Dieu, c'est Jésus qui parle. C'est lui la vie éternelle. C'est lui qui a annoncé aux hommes, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est lui qui accepte, si nous l'acceptons, c'est lui qui libère de l'esclavage du péché, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce que vous avez entendu doit demeurer en vous. C'est notre encouragement aujourd'hui. Ce que vous avez entendu doit demeurer en vous. Une fois que l'on a reçu ce Jésus, il n'est plus question d'une connaissance théorique. Il est question maintenant d'une relation véritable avec le Dieu véritable. C'est cette relation qui transforme notre vie, notre existence. Connaître Dieu veut dire rentrer dans une relation de vie avec ce Dieu. Sommes-nous fidèles dans cette relation avec notre Dieu? Voilà le message qui donne la vie éternelle. Or, nous savons, une fois que nous avons accepté ce message, nous avons accepté, alors, quoi? Non pas un discours des hommes, mais nous avons accepté Dieu lui-même. Nous avons accepté Dieu lui-même dans notre vie. C'est-à-dire, une fois que nous avons accepté que nous sommes coupables, que nous nous sommes repentis, devant Dieu, Dieu, au lieu de nous condamner, il nous a donné son Fils. Et je redis encore ce petit mot, il nous a donné son Fils. Dieu donne, Dieu a donné, prenez. Si vous n'avez pas encore fait ce choix, Dieu donne son Fils. Il nous a donné son Fils. Dieu a donné, prenez. Si nous avons placé notre confiance en lui, nous sommes sauvés pour l'éternité. Le verset 25 que nous avons lu dans 1 Jean 2 dit la promesse de Jésus lui-même, que Jésus lui-même a faite, vous aurez la vie éternelle. C'est notre espérance, avoir la vie éternelle. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quel est le message ici pour nous? Ce que vous avez entendu doit demeurer en vous. Doit demeurer en vous. Or, ce que nous avons entendu, ce n'est pas un discours, nous l'avons dit. Ce que nous avons entendu, c'est Jésus. Si vous avez accepté par la foi ce Jésus comme sauveur personnel, dans ce texte, Jésus dit, le Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez vous. Si en acceptant le Seigneur, le Père et le Fils viennent par l'Esprit faire de nous leur demeure, alors nous devons donc comprendre que nous devenons le temple de Dieu par l'Esprit. Nous devenons le temple de Dieu par l'Esprit. Nous devenons l'habitant de Dieu, l'habitation de Dieu par l'Esprit. Nous devons comprendre que la demeure de Dieu, c'est nous. La demeure de Dieu, c'est nous. Dieu vient habiter en nous. Nous devenons la demeure de Dieu. Ce que vous avez entendu doit demeurer en vous. C'est-à-dire, le Père et le Fils doivent demeurer en nous par l'Esprit. Nous sommes la demeure de Dieu. Voilà une question que nous pouvons nous poser. Si nous sommes la demeure de Dieu, comment nous aussi, nous pouvons demeurer en Dieu? Si nous sommes la demeure de Dieu, comment nous aussi, nous pouvons demeurer en Dieu? Le Père et le Fils habitent déjà en nous, n'est-ce pas? Nous ne réalisons pas toujours ce privilège de savoir que Dieu habite en nous réellement. Ce n'est peut-être pas une chose facile, je le dis, mais nous voyons que nous vivons au jour le jour et nous ne réalisons pas toujours ce privilège d'avoir Dieu qui habite en nous réellement. Nous sommes le temple vivant de Dieu. Le temple, ce n'est pas le bâtiment. On nous le dit tout le temps. Mais nous, nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Que Dieu demeure en nous. Quand la Bible enseigne que Dieu vient demeurer en nous, la réalité s'opère par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est dit en 1 Corinthiens 6, verset 17, que celui qui s'attache au Seigneur, qui s'attache au Christ, il est avec lui un seul et même esprit. Il est un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur, à Christ, il est avec lui un seul esprit. C'est-à-dire, quand nous devenons enfants de Dieu, nous partageons le même esprit, l'esprit de Christ, l'esprit d'adoption, par lequel nous appelons Dieu Père, Papa. Nous sommes unis spirituellement à Dieu. C'est pour cela que 2 Pierre 1, verset 4, dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. Nous ne sommes plus n'importe qui dans ce monde. Ce n'est pas faire de l'orgueil, mais c'est un honneur pour nous que Dieu habite en nous, que nous pouvons habiter, être la demeure de Dieu, c'est un privilège. Nous ne sommes plus n'importe qui dans ce monde. Nous participons à la communion de la spiritualité de Dieu lui-même, le Père, le Fils habitant en nous par l'Esprit. Le Seigneur disait à ses disciples dans Jean 14, verset 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, dans le Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous, et que le Père, il est dans le Fils. » Voilà la parole de Jésus. Jésus pria et dit à son Père dans Jean 17, verset 20-23, que tous ceux qui croient en lui soient un. Et cette unité n'est pas n'importe laquelle, mais une unité qui ressemble à celle de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme toi, tu es en moi, comme moi je suis en toi, que eux aussi soient un. Pas un séparé, mais un en nous. Que eux aussi soient un en nous. C'est-à-dire dans la divinité. Ici, il y a quelque chose qui dépasse notre entendement, bien sûr. Que Dieu puisse venir habiter en nous, oui, mais que nous puissions habiter en Dieu. Oui, cela dépasse notre intelligence. Mais c'est Dieu qui le dit. Nous sommes la demeure de Dieu. Mais en même temps, nous devons nous-mêmes demeurer en lui. Nous avons été rachetés en Christ Jésus. Notre vie, elle est cachée en Dieu. Quand le Christ apparaît, notre vie apparaît aussi. Être la demeure de Dieu et avoir Dieu pour demeure, quel privilège et aussi quelle responsabilité. Dieu est notre demeure, une demeure sainte. C'est pour ça que la responsabilité est grande. Une demeure sainte. L'onction que nous avons reçue est une onction de celui qui est saint. Toute notre conduite sera à la sanctification. Parce que celui qui nous a appelés est saint, nous aussi, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Et c'est là notre responsabilité, la charge. Dieu demeure en nous, nous demeurons en Dieu, mais nous avons une responsabilité. Dieu est un Dieu saint. Quelle est la conséquence de cette double demeure? C'est-à-dire la conséquence du fait que Dieu habite en nous et que nous, nous habitons en Dieu. En 1 Jean, chapitre 2, verset 25, il est dit, et voici la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut pour nous, la vie éternelle. Donc, être la demeure de Dieu et avoir Dieu pour demeure nous conduit à une réalité spirituelle qui nous conduit dans toute l'éternité. Nous avons la vie éternelle. Est-ce que nous réalisons que notre qualité de vie a complètement changé parce que nous avons l'éternité de Dieu en nous? Et l'apôtre Jean écrit en 1 Jean 2, verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte, ne soyons pas confus, ou que nous ne soyons pas confus devant lui. » Et éloigné de lui. Que dire pour terminer? De réfléchir à notre conduite. Lisons 1 Jean, chapitre 2, versets 5 et 6. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Écoutons comment il termine. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui le Seigneur a marché. Marcher comme le Seigneur, c'est ma prière. Demeurez en Christ, vous qui êtes venus à lui. Venez à moi, dit le Seigneur. Demeurez en moi. Remarquez que Jésus ne dit pas venez demeurer avec moi, mais de demeurer en moi. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à marcher comme Christ a marché, et cela pour sa gloire. Amen. Il y a un petit chant, bien petit, mais il est grand, qui dit « Demeurez en moi ». À l'occasion, essayez de les réécouter. On va le prendre parce qu'il n'est pas facile à chanter, facile. Donc, vous avez Internet, tout. Essayez de réécouter ce chant qui dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Celui qui demeure en moi porte Amen. Beaucoup de fruits. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.